Il est des lieux d'où tout espoir est absent. Elle regarda l'aube hivernale à travers le pare-brise et la brume, la plage en croissant et, tout au bout, les maisons en granit émergeant du brouillard. Puis Arias et elle descendirent, gagnèrent à pied l'endroit de la plage où un ruban en plastique indiquait le chemin à suivre. Le vent salé agitait ses cheveux. Le bruit délicat des vagues croissait et décroissait. Elle foula le sable meuble. Des traces de pneus ici et là, sillons crénelés qui se croisaient et dont certains avaient été marqués par les techniciens de la police scientifique. Elle se prépara au choc. C'était là, au pied de la grande croix de pierre. Des combinaisons blanches allaient et venaient, hantant la brume, aussi silencieuse que des spectres, autour d'un trou peu profond creusé dans le sable. Il y avait quelque chose dans le trou. Il y avait aussi, garée sur le chemin goudronné descendant vers la plage, une ambulance. Le premier véhicule à être arrivé sur les lieux. Et un fourgon funéraire qui emporterait le corps à l'antenne locale de l'IMELGA, l'Institut de médecine légale de Galice. Son humeur aussi sombre que la météo, Lucia Guerrero souleva un pan de sa veste en cuir, montra l'écusson accroché à sa ceinture. Le sergent Arias avait le sien pendu à son cou. « On sait qui c'est ?» demanda-t-elle. « Vera Saez Louro, née en 1994, nationalité espagnole. Elle avait ses papiers sur elle, mais pas son téléphone. Comme les autres. » L'OPJ de Pontevedra dévisagea Lucia. Il avait entendu parler d'elle. Le journal La Voz de Galicia avait annoncé l'envoi par Madrid d'une équipe de LUCO, l'unité centrale opérationnelle, et de sa plus célèbre enquêtrice à la Corogne après le deuxième meurtre. Pour aider à résoudre l'affaire que la presse nommait déjà les séquestrés de Galice. Des semaines qu'ils étaient sur le coup. Malgré cela, la disparition de Vera Saez Louro avait été signalée 5 jours plus tôt, alors qu'elle avait quitté son domicile pour se rendre à son travail à Rianzo. Où es-tu? Que fais-tu en ce moment? Es-tu déjà en chasse de la prochaine? Lucia baissa les yeux vers la forme étendue dans le trou, qui était d'ailleurs à peine un trou, plutôt un creux, une dépression. Elle avait appris depuis longtemps à laisser ses affects de côté. Mais il faut bien reconnaître qu'il y avait quelque chose de poignant dans le spectacle de cette femme qui semblait s'être endormie tout habillée sur le sable après une nuit de fête. Elle portait encore son manteau d'hiver sur un gros pull et un jean. De chaudes bottines en daim aux pieds, des gants de laine, de grandes boucles d'oreilles, une touche de rouge à lèvres. Dans la lueur acide des projecteurs, son visage tourné vers le ciel vide était très pâle, crayeux. Le brouillard dérivait autour d'elle comme la fumée d'un feu de camp. Elle avait les cheveux propres, brillants, les ongles peints, comme les autres. On aurait dit qu'elle allait se réveiller sans délai. Ça ne risquait pas. Pas avec cette paire de ciseaux plantés dans son cou à hauteur de la carotide. Arias et Lucia reconnurent aussi le petit ami, le rosaire, les 3 têtes d'ail posées soigneusement à ses côtés. Le même rituel à chaque fois. Ils savaient ce que la présence de ces objets signifiait. On le leur avait expliqué. El aire. L'air. Avant de débarquer en Galice, Lucia ignorait le sens qu'on donnait ici à ce mot. Pas le sergent Arias, qui y avait de la famille du côté maternel. Elle avait découvert à sa grande stupeur qu'un nombre étonnant de Galiciens croyaient en lui. El aire, l'air, que d'autres appelaient l'ombre ou le petit mal. Pas exactement une maladie, ni tout à fait le mauvais œil. Plutôt une forme de mal-être, une fatigue. Un poids invisible sur vos épaules, qui vous tirait vers le bas, vous vidait de vos forces, de votre énergie. Quand on avait l'air, on se traînait, on nourrissait des idées noires, on n'avait plus goût à rien. Et bien entendu, comme existait l'air, existaient les personnes qui vous l'enlevaient. Quitar el aire. Ôter l'air. Il y avait en Galice des femmes, âgées pour la plupart, qui se transmettait cet art de génération en génération. Des femmes que tout le monde connaissait dans les villages et que beaucoup visitaient, en secret ou pas. Lucia s'étonna que la presse ne fût pas encore là. Lorsque trois jeunes femmes sont enlevées à quelques semaines d'intervalle et que leurs corps sont retrouvés quelques jours après, les journalistes déferlent en général comme les festivaliers au Burning Man et oublient toute forme de retenue et de décence. Il fallait croire que les ambulanciers arrivaient sur place en premier et le médecin qui avait constaté le décès avait été discret. Mais la presse ne tarderait pas. Il disposait de très peu de temps. « Le légiste ?» demanda-t-elle. « En route. Qui a découvert le corps ?»« On n'en sait rien. On a reçu un appel anonyme. Homme ou femme ?»« Homme. Des témoins ?» Elle désigna les maisons noires qui se tassaient jusqu'à la pointe, s'avançant sur les eaux brumeuses. L'île Tambo, ainsi que l'autre rive, avec ses grues et les installations de l'école navale, demeurait invisible. « On n'a pas encore commencé l'enquête de voisinage, » répondit l'OPJ de la Guardia Civile de Pontevedra. « Mais la plupart de ces maisons n'ouvrent qu'à la belle saison. » On était en janvier. La marée des touristes avait reflué et déserté la côte de Galice depuis longtemps. Elle jeta un regard à Arias qui le lui rendit en partie. Il était affecté d'un strabisme divergent. Un œil partant à droite, l'autre à gauche. Ça perturbait ses interlocuteurs, mais pas Lucia. Il comprit. Dans l'immédiat, il n'était d'aucune utilité sur la scène de crime. Il acquiesça d'un signe de tête, et ils quittèrent la plage pour se faufiler dans les ruelles. Partout, des oreos, ces greniers posés sur pilotis typiques du nord-ouest de l'Espagne. Combarro en comptait plus que tout autre village en Galice. Il y en avait même dans les jardins, où ils occupaient tout l'espace. Des ruisseaux coulaient dans des rigoles, des fontaines murmuraient dans le brouillard. À part ça, c'était silencieux et vide. Lucia estima que le tueur était descendu sur la plage par l'autre extrémité, en empruntant la rampe goudronnée par laquelle eux-mêmes étaient arrivés, celle où stationnaient l'ambulance et le fourgon funéraire, à bonne distance des maisons. Ensuite, il avait dû rouler sur le sable jusqu'à l'endroit où il avait abandonné le corps. C'était gonflé. Comme pour les rapts, il avait dû agir tôt le matin, avant que le jour se lève, peut-être à la lueur des phares, quand les villageois dormaient encore. Il avait dû faire vite, la sortir du coffre, creuser un semblant de trou et déposer les objets rituels. Il l'avait tué et préparé ailleurs. Dans une ruelle, un garçonnet solitaire tapait dans un ballon, qu'il faisait rebondir contre un mur. Il s'arrêta net en les voyant approcher. « Je l'ai vu !» dit-il. Le regard de Lucia se porta sur lui. Le jeune garçon avait le visage allongé, le menton pointu, de grands yeux mobiles. Il ne semblait ni impressionné, ni effrayé. « Qui ça ?» Il pointa un doigt en direction de la plage. Elle lui donna dans les 10 ans. « Celui qui a fait ça ?» « Slenderman. Il était sur la plage, je l'ai vu. Qui »« Qui ?»« Slenderman, » répéta le garçon. Il sortit son téléphone, pianota dessus, lui montra une image où apparaissaient des enfants en train de jouer. Dans le coin gauche se tenait une silhouette étrange, très haute, avec des bras d'une longueur disproportionnée et une tête aux traits effacés. Lucia ressentit un étrange malaise à sa vue. Elle se demanda d'où sortait ce cliché. Slenderman est une légende urbaine, précisa Arias. Un monstre imaginaire qui apparaît dans des centaines d'images sur Internet. Un truc pour faire peur. Tu veux dire qu'il était très grand, c'est ça? Le môme hocha la tête. Lucia se dit que, sur Internet, de nouvelles mythologies remplaçaient chaque jour les anciennes. « Il est parti par où ?» demanda-t-elle. Le garçon montra la rue étroite qui sinuait entre les maisons du village, aussi muet et fermé qu'une tombe en cette saison. Des lambeaux de brouillard léchaient le granit des façades, les laissaient humides et luisantes.